7h27 minutes, donc la manchette a fait bang hier quand c'est sorti. On pouvait peut-être s'en douter, mais en tout cas, le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète et que le nord du pays, donc du Canada, se réchauffe encore plus rapidement. C'est une conclusion d'une étude commandée par le ministère de l'Environnement. J'en parle avec Alain Bourque, qui est directeur général d'Ouranos. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
D'abord, comment on explique ça? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que le Canada s'est réchauffé plus vite?
Bien, la plus grande partie du réchauffement est attribuée aux émissions de gaz à effet de serre, donc aux changements de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui ont la caractéristique là, de laisser passer le rayonnement solaire, mais de capturer l'énergie qui est retransmise par la surface de la Terre. Et donc, ça crée en fait un effet de serre, d'où l'appellation des gaz à effet de serre.
Mais pourquoi c'est plus accentué au Canada qu'ailleurs?
Bien, c'est surtout à cause de ce qu'on appelle un phénomène de rétroaction positif là, qui est en lien avec la neige et la glace. Donc, la neige et la glace, naturellement à cause de leur couleur, réfléchissent une bonne partie du rayonnement solaire sans que ça soit transformé en énergie pour réchauffer l'atmosphère. Alors, à partir du moment où on réchauffe les températures à cause des gaz à effet de serre, bien là, on réduit la durée d'enneigement et d'englacement sur l'ensemble de la planète. Naturellement, le Canada est particulièrement gâté au niveau de la neige et de la glace par rapport à bien d'autres pays. Et donc, ça crée cet effet de feedback positif. Ça veut dire que ça accélère le réchauffement régionalement parlant. Et donc, c'est pas surprenant non plus de constater que, oui, le Canada, c'est à peu près deux fois plus rapide comme réchauffement. Mais dans les régions arctiques, c'est jusqu'à trois, voire même quatre fois plus rapide que le reste de la planète parce que, naturellement, la neige et la glace jouent un rôle encore plus important là-bas.
Et concrètement, cette augmentation de presque 2 degrés, un peu plus que 2 degrés, 3 degrés, comment ça se traduit, notamment dans le nord canadien, là?
Bien, en fait, surtout pour le Nord, ça change profondément l'environnement et les écosystèmes. Alors, donc par exemple, on a vu une chute drastique du couvert de glace sur toute la région arctique, sur l'océan arctique, et même présentement, au rythme où vont les choses, on anticipe que autour des années 2050, il n'y aurait plus de glace du tout pendant la saison estivale sur l'océan Arctique. Et ça serait vraiment une première. Là, il n'y a pas eu ça sur la Terre depuis clairement plusieurs milliers d'années, voire en fait jamais. Là. Alors ça, c'est au niveau de la glace. Même chose pour l'enneigement. Alors, il y a ironiquement, dans les régions arctiques, il y a souvent davantage de neige en quantité, mais la durée de la saison d'enneigement se réduit de plus en plus. Le pergélisol, donc le sol qui était historiquement gelé en permanence, se met à dégeler de plus en plus. Et donc, graduellement, on a des régions qui sont de la boue congelée depuis très longtemps, là, qui sont en train de se liquéfier suite au réchauffement des températures dans le sol. Alors, il y a toute une panoplie d'indicateurs climatiques, donc ça va bien au-delà de la température, ce réchauffement du climat, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le changement climatique, parce qu'il y a des impacts sur toute une panoplie de variables. Et dans le rapport, il y a un point intéressant aussi autour des océans canadiens. Alors, les océans canadiens, les températures se réchauffent aussi, augmentent. L'acidification des océans se produit aussi au Canada. Il y a une diminution de la quantité d'oxygène dans les océans qui fait en sorte que c'est beaucoup moins favorable pour la biodiversité marine. Et donc, toute une panoplie là, d'observations qui sont assez intéressantes et bien documentées.
Mais quand vous faites la liste là, de ces observations, j'entends des auditeurs dire, oui, mais qu'il y ait moins de glace, qu'il y ait plus de boue. Quel est l'effet? En quoi ça change ma vie, ce qui est en train de se passer, notamment en haut, dans le nord?
Alors, peut-être pour un point d'information, le prochain rapport qui va être publié par le gouvernement fédéral est justement sur les impacts de ces changements climatiques-là concrets sur les populations, sur les écosystèmes, etc. Mais déjà, on le sait, là. Par exemple, quand le pergélisol se dégrade, bien, il y a beaucoup de villages dans le Grand Nord, peu importe où on est, en Russie, au Canada, etc., qui sont en fait installés dans le fond des vallées dans les régions nordiques. Ces vallées-là ont tendance à être des vallées boueuses, mais la boue est gelée depuis très longtemps, puis on a installé donc des villages, des villes sur ces régions-là, et donc la fonte du pergélisol cause beaucoup de problèmes pour les infrastructures, les bâtiments qui sont là. Naturellement, les écosystèmes, l'évolution de l'ours polaire, toute la faune et la flore aussi est en train de se transformer avec ces changements de température, d'enneigement, d'englacement. Donc, il y a des impacts sur l'environnement naturel, sur les infrastructures, sur le monde bâti, aussi, et naturellement sur les populations, et même dans le cas des régions arctiques, on sait bien, les Inuits nous documentent très clairement que maintenant, ils ont beaucoup de difficultés à voyager pendant certaines parties de saison, soit en ski doux ou soit en bateau, pour pouvoir d'aller d'une région à l'autre à cause des transformations qui se produisent et des impacts sur les écosystèmes.
Maintenant, l'autre réalité, on l'a vu, là, puis c'est souligné dans le rapport, c'est que qu'on va vivre de plus en plus des épisodes, exemple, de vagues de chaleur plus intenses, plus longues, des périodes avec des précipitations plus fortes. Donc, en fait, tous les phénomènes météo, là, risquent de passer dans une catégorie plus fréquente et plus extrême.
Oui, exact. Et ce qui pose problème, encore une fois, comme vous me posiez la question, c'est que notre système socio-économique s'est développé en étant habitué à un climat historique. Donc, on a tout adapté en fonction des moyennes historiques. On a construit nos infrastructures en fonction de certains régimes d'extrême de précipitation, etc. Et là, dans le rapport, on a à la fois une mise à jour de ce qui s'est passé à date au cours des dernières décennies, mais surtout de ce qui s'en vient pour le futur. Donc, pour donner un exemple, à chaque 1 degré Celsius de réchauffement qui va s'ajouter, on a une augmentation des précipitations totales au Canada de 7% et on a une augmentation des événements les plus extrêmes de précipitations de 14%. Ça, c'est à chaque degré Celsius. Et là, présentement, si on ne fait rien au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ben, le climat au Canada pourrait se réchauffer de l'ordre de 4, 5 ou 6 degrés Celsius. Donc, ça donne des chiffres d'augmentation d'extrême de précipitation, par exemple, qui sont particulièrement impressionnants au cours des prochaines décennies. Alors, effectivement, il y a toute une panoplie d'extrêmes. Et encore une fois, dans le rapport, on documente bien les extrêmes de chaleur, le changement dans la longueur de la saison de croissance pour les végétaux qui augmente, les augmentations de précipitations dans toutes les saisons, sauf l'été, qui est ironiquement probablement la saison où on a le plus de besoin d'eau pour toutes sortes d'usages. Alors, l'été, on anticipe sur le sud du Canada densément peuplé une diminution des quantités de précipitations et une diminution des apports en eau. Réduction de la masse des glaciers un peu partout au Canada, rehaussement du niveau de la mer. Donc, il y a toute une panoplie là, de types, soit d'événements extrêmes ou encore de situations climatiques importantes pour les apports en eau, par exemple.
M'aviez dit, il y a quelques mois, lors d'une entrevue, c'est bien d'avoir des stratégies pour réduire les gaz à effet de serre, les émanations, mais il faut surtout avoir une stratégie maintenant pour s'adapter aux changements climatiques là, qui sont inévitables.
Ben, tout à fait. Alors, il faut absolument faire les deux parce que, justement, c'est une des premières conclusions du rapport, c'est que le changement climatique qui est en cours est irréversible. Le changement du climat qui s'est déjà produit de l'ordre de 1,7 degrés Celsius au Canada, il est acquis et, malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière, revenir au normal climatique historique. Donc, ça, c'est acquis. Et tous les gaz à effet de serre qu'on va rajouter vont continuer à rajouter du changement climatique. Et donc, ça fait en sorte que, effectivement, il faut déjà apprendre à vivre avec le climat que l'on a et avec le climat que l'on aura au cours des prochaines décennies. Naturellement, le point bien important aussi ici, c'est que si on réussit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis le rapport en fait une belle synthèse, là, si on réussit à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on diminue l'ampleur du changement climatique à venir. Donc, on ralentit le processus. Naturellement, en contrepartie, on est obligé de s'adapter à un nouveau régime d'extrême, un nouveau régime d'inondation, des changements dans les températures, dans le pergélisol, puis dans les couverts de glace et de neige.
En terminant, et là, je le sais qu'on a dû vous poser cette question-là 100 000 fois, mais je vois 100 000 courriels rentrer à chaque fois, là. On a un hiver où il a fait froid, on a un hiver avec des précipitations. Quelqu'un me dit, par exemple, ici, on gèle au lac Saint-Jean depuis le mois d'octobre dernier. Qui dit vrai à propos du réchauffement climatique?
Mais en fait, je pense que les analyses scientifiques objectives qui ne prennent pas les données au travers du prisme de la perception, hein, je pense qu'on n'a pas nécessairement toujours une très bonne mémoire de à quoi ressemblaient les hivers des années 60, 70, etc. Donc, il faut vraiment regarder les données. Et effectivement, cette année, le Canada a vécu un hiver plutôt normal. Les gens perçoivent que l'hiver est plus froid que la normale, mais les données sont assez claires. L'hiver ressemble à un hiver des années 70, des années 80. Il n'est pas plus froid que les hivers des années 70-80. Ceci étant dit, cet hiver canadien-là, qui a été près des normales, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur l'ensemble du globe, je veux dire, il y a eu très peu de régions qui ont eu des hivers plus froids que la normale. C'est plutôt au contraire, presque toute la planète qu'il y a eu les trois derniers mois qui ont été beaucoup plus chauds que la normale. En fait, l'hiver, là, si on considère que l'hiver, c'est le mois de décembre, janvier, février, l'hiver sur la planète, ces trois mois-là, ont été le quatrième hiver le plus chaud depuis les 140 dernières années. Et ça, c'est pas des interprétations de gens comme ça, etc. Ce sont les données, les chiffres, les thermomètres qui mesurent la température depuis ces périodes d'années-là qui ont pu établir qu'on avait eu le quatrième hiver le plus chaud depuis les 140 dernières années.
Merci beaucoup, M. Bourque. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Alain Bourque est le directeur général d'Uranos. On pourrait dire aussi, vous faire la différence entre des tendances, des changements climatiques et la météo. Donc, c'est pas tout à fait le même type de lecture qu'on doit faire. 7h38.